Il est 19h, donc on va pouvoir commencer ce conseil municipal. Je vous remercie de vous être rendu disponible. Je demanderai aux élus de rester un tout petit moment après le conseil. Quelques secondes, hein, une minute. Donc nous avons les procurations de Pierre Achard à Antoine Di Paolo, de Marc Jotti à Claude Bruno, de Corinne Mourgue à Rémi Mounier et de Sylvie Barbe à Mireille Papin. Nous allons pouvoir commencer, si vous en êtes d'accord, l'ordre du jour. Le premier point, c'est, alors, secrétaire de séance, on change, ce sera Michel Bisaccia, de façon à pouvoir signer les comptes rendus de PV dès demain. Donc, l'approbation du procès-verbal du dernier conseil. Avez-vous des observations, des remarques? Donc, on va le mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le premier point à l'ordre du jour, ce sont les décisions générales donc du maire. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu le détail. On voit toutes les entreprises qui ont été retenues dans le cadre du marché public pour le projet du complexe sportif Camille de Rochetaillé. Je ne reviens pas sur le détail. Hein. Il y a eu une commission des appels d'offres, un choix des négociations avec les entreprises et la notification des marchés. Des questions par rapport à ça, puisque de toute façon, ce n'est pas soumis au vote. Le point 2, dissimulation rue de Ratarieux. Donc, il y a lieu d'envisager des travaux de dissimulation rue de Ratarieux. Conformément à ses statuts et aux modalités définies par son comité et son bureau, le ciel, territoire d'énergie Loire, peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents. Donc là, c'est la rue de Ratarieux, c'est une petite rue qui est derrière le complexe commercial. Donc nous avons éclairage rue de Ratarieux, dissimulation donc rue de Ratarieux, télécom rue de Ratarieux, télécom impasse de Ratarieux. Donc le total est de 89 618 avec la remise du ciel de 9 445. Le coût de la participation sera de 72 856. Ces contributions sont indexées sur l'indice travaux publics 12. Je vous demande de bien vouloir donc demander au ciel d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de dissimulation donc des réseaux rue de Ratarieux et impasse de Ratarieux, d'ailleurs, dans les conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier me sera soumis pour information avant exécution. Comment ? Moi, j'ai 72 856. Ah, c'est la participation. Ah oui, commune, d'accord. C'est le delta 9445. 89 000, c'est le coût. Il y a métropole 72 000 et 9 445 pour la commune. D'accord. Oui, tout à fait. Vous avez bien fait. Parce que généralement, la présentation est un petit peu différée. Prendre acte des travaux relevant de la compétence de Saint-Étienne Métropole qui seront assurés en coordination avec la métropole et que le chantier ne pourra débuter qu'après délibération de Saint-Étienne Métropole. Et approuver le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, donc 9 445 euros, étant entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté. Prendre acte que le versement du fonds de concours au ciel territoire d'énergie est effectué en une seule fois et m'autorise à signer toutes les pièces à intervenir. C'est le genre de délibération que nous avons fréquemment. Des questions? Je crois que ça doit être une des rares rubus où il y a encore des réseaux à enfouir. Donc, qui est contre? Non, c'est pas dans l'enveloppe voirie. C'est pas de la voirie, c'est du réseau. Mais c'est pris en charge dans le cadre de métropole. Nous, on a un delta payé. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, nous validons cette démarche et je vous en remercie. Je vais passer la parole à Antoine Di Paolo pour la convention avec 30 millions d'amis.
Oui, bonsoir. Depuis 2014, la commune signe une convention relative à une campagne de stérilisation et d'identification des chats errants avec la Fondation 30 millions d'amis. Au départ, la Fondation 30 millions d'amis réglait aux vétérinaires la totalité des frais de stérilisation et d'identification des chats errants, mais cette campagne génère un coût trop élevé pour cette dernière qui souhaite participer désormais aux frais à hauteur de 50%. Ça fait déjà plusieurs années que c'est comme ça. Je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la nouvelle convention avec la Fondation 30 millions d'amis et leur verser une participation de 550 euros pour 2025 des signatures de la convention. Les 550 euros représentent l'identification et stérilisation d'une dizaine de chats, mâles et femelles.
Donc on ne va pas reprendre la convention dans son ensemble, puisque c'est une convention qu'on reconduit régulièrement. Donc là, c'est notre participation, 550 euros, ce qui correspond à peu près à une dizaine de chats.
Du coup.
Voilà. Des questions par rapport à ça ? Là aussi, hein, c'est une convention qui est reconduite année après année. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc nous validons la convention avec 30 millions d'amis pour l'année à venir. Le point suivant, c'est la modification du règlement intérieur de la crèche Castor et Pollux. Et je passe la parole à Michel Bisaccia.
Oui, bonsoir. Oui, effectivement, on a fait un gros travail, la directrice de la crèche et du jardin d'enfants qu'on verra après. On fait un gros travail cette année pour remettre un peu à jour le règlement qui était un peu ancien. Donc elle a souhaité mettre à jour son règlement intérieur et on vous demandera d'adopter le règlement. Alors, je ne vais pas vous lire tout le règlement intérieur, hein, je vais simplement vous dire ce qui a été modifié. Déjà, on a remis beaucoup en page, on a remis en forme la forme du règlement. On a pris les derniers décrets qui réglementaient tout ça. On a aussi décidé, après une réunion avec Christian, Frédéric et moi et les directrices, de modifier un peu la capacité d'accueil parce qu'on était à 46, hein, je dis 45. 45 et c'est vrai que alors maintenant il faut un animateur pour 6 enfants. Un animateur, n'importe quoi. Une auxiliaire de puériculture pour 6 enfants. Donc déjà, 45, c'était pas un multiple de 6. On est donc descendu à 42 places. On a signifié à la PMI, donc à la protection maternelle infantile, qu'on souhaitait donc diminuer à 42 places, qui nous a permis quand même de gagner un poste entier avec le système des remplacements et tout. Et c'est assez intéressant. Et là, on va retravailler. On va essayer de voir si on peut, par exemple, faire une capacité variable en fonction des heures de la journée. Parce qu'on s'est rendu compte que le matin de l'ouverture jusqu'à 8h30, 9h, il n'y a pas grand monde. Parce qu'effectivement, les habitudes de garde ont un peu changé avec le Covid. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en télétravail et du coup, ils n'amènent plus les enfants forcément à 7h30. Ils les amènent plutôt à 8h30 ou à 9h moins quart quand ils vont attaquer le télétravail. Donc, on va travailler là-dessus aussi, tout ça pour éviter d'avoir, d'avoir des postes, des plages horaires qui sont en surnombre. La directrice joue ça très bien, mais si on peut gagner quelques postes, ça sera pas mal. Donc on est descendu à 42 places, on a 32 places en accueil régulier et 10 places en accueil polyvalent. Ça c'est ce qui permet de combler un peu les trous, et puis éventuellement d'accepter des enfants aussi qui peuvent être en difficulté et que la PMI nous demande d'accueillir en crèche. Après la modification, donc là après il n'y en a pas. La modification essentielle, et ça c'est suite à un problème qu'on a eu avec un parent qui avait mis son enfant qui avait la grippe avant la fin de la période d'éviction. Le médecin avait dit que c'était jusqu'au vendredi, et le jeudi matin, il a ramené l'enfant en disant « Non, mais il n'y a pas de souci, il va très bien ». Oui, forcément, non, il n'allait pas bien du tout, mais voilà. Donc, on a rajouté une phrase qui dit ça. « En aucun cas, le certificat médical du médecin ne pourra être écourté à la demande des parents. » Les parents ne sont pas médecins. Si le médecin met une semaine d'arrêt, c'est qu'il y a besoin d'une semaine d'arrêt. Qu'est-ce qui a été modifié ? Oui, voilà. Voilà, mais il n'aime pas les médecins. Ça doit être ça. Entre l'administratif et les médecins, ça ne fonctionne pas toujours très bien. On a rajouté aussi qu'on prend les enfants de 10 semaines. Ce n'est pas beaucoup. Hein. Ils ont un petit bout de chou à 6 ans, date anniversaire. Alors, à la crèche, ce n'est pas 6 ans. Hein. Mais il a été rajouté aussi que pour les enfants de moins de 10 semaines, l'avis au service départemental de PMI est requis. Mais je crois qu'on a rarement ce genre de demande. Et puis, il y a une dernière modification qui est plus loin. Voilà, oui, on a changé un peu le système avec le portail famille d'inscription et on a rajouté que les heures d'arrivée et de départ des enfants seront saisies par les parents sur un écran tactile qui est placé à l'entrée de la crèche. pointé à l'arrivée de l'enfant et à sa sortie de la crèche. Parce que vous savez que dans les crèches municipales, la facturation, c'est au quart d'heure. Donc, il faut effectivement qu'on ait bien l'heure d'arrivée et l'heure de sortie. Et avant, c'était le personnel qui faisait ça sur un cahier. Et là, maintenant, avec le nouveau système, le nouveau logiciel, ça se fera comme ça. Donc, je pense qu'au début, il va y avoir un peu des couacs parce qu'ils vont bien penser à pointer quand ils vont arriver, mais ils vont peut-être moins penser à pointer quand ils vont sortir. Mais bon, voilà, on facturera la journée. Puis, je crois que c'est à peu près les seules modifications. Et pour Pégase, c'est à peu près la même chose. S'il y a aussi, dans les annexes, mais que vous n'avez pas forcément là, on a rajouté des vaccins obligatoires comme le vaccin de la grippe, par exemple. Parce que c'est vrai que la grippe à la crèche, ça fait quand même pas mal de dégâts, alors au niveau des enfants, mais surtout au niveau du personnel. Cet hiver, on a eu quand même beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas venus parce qu'ils avaient la grippe. Et effectivement, c'est souvent les enfants qui les amènent. Donc maintenant, on demande une vaccination contre la grippe. Normalement, on n'est pas tenu de les prendre. Hein. Les vaccins non obligatoires, ça, je sais pas. C'est dans le règlement intérieur. Hein. Après, s'ils n'acceptent pas le règlement intérieur, on n'est pas censé les accueillir. Hein. Mais bon, on verra. Hein, ça. Oui. Alors, pour l'instant, on va dire qu'ils vont le faire. Voilà. Donc, il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter le règlement intérieur de la crèche Castor et Pollux, tel que joint à la présente. Et on aura exactement la même délibération pour le jardin d'enfants, parce que c'est exactement les mêmes modifications. Et on vous demande donc aussi de vouloir adopter le règlement intérieur du jardin d'enfants Pégase, tel que joint à la présente. Voilà.
Des questions? Alors, c'est vrai que un vaccin non obligatoire qu'on demande, à la limite, si l'enfant arrive avec la grippe, qu'il a été vacciné, on verra si on l'accepte ou pas. Moi, j'ai pas envie qu'il contamine l'ensemble de nos personnels, qu'on soit obligé de fermer nos structures. Parce qu'il y a des parents qui ont décidé que. Ou alors, ils le gèrent autrement, mais pas dans les structures publiques. Ils n'ont qu'à aller dans les structures privées. C'est légal. Ça passe toujours par le filtre de la PMI. Donc là-dessus, on n'a pas de souci. Hein. Tout ce qu'on fait, c'est filtré par la PMI et s'il y avait un problème, on le saurait. Hein. Après, on verra. Des questions par rapport à cette modification? Donc c'est du pragmatisme. Hein. On modifie, on s'adapte aux réalités auxquelles on est confronté. Augmentation de notre capacité d'accueil, ou plutôt adaptation de notre capacité d'accueil à l'évolution des comportements parentaux. Et puis, c'est problématique par rapport au vaccin. Donc on va d'abord voter la délibération 4, qui est celle de la modification du règlement intérieur de la crèche Castor et Pollux, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Donc cette modification est adoptée à l'unanimité. Et dans la foulée, on va pouvoir voter l'adaptation du règlement intérieur du jardin d'enfants, Pégase. Voilà. Donc qui est contre ? Qui s'abstient, qui est pour. Donc cette modification est également adoptée. Merci. On va parler maintenant du plan de mobilité. Alors le plan de mobilité, il fait environ 600 à 700 pages, vous l'avez tous lu bien évidemment. On vous en a envoyé une synthèse. Et moi, ce que je vais vous proposer, c'est une synthèse de la synthèse. Parce que là aussi, il faut comprendre que c'est un enjeu considérable pour notre métropole pour demain. Et au travers de ça, d'ailleurs, ça posera d'autres problématiques. Et donc, on est dans la phase de fin de consultation administrative, puisque de fin mai à fin août 2025, c'est la consultation des personnes publiques associées, dont les 53 conseils municipaux. En octobre, il y aura un mois d'enquête publique et en janvier 2026, l'approbation finale en bureau et en conseil métropolitain. Donc on est vraiment dans la phase terminale, sachant que cette problématique du plan de mobilité avait commencé au quatrième trimestre 2022. En ce qui concerne le diagnostic, donc l'existant, il y a trois principaux enseignements sur le fonctionnement du territoire. D'une part, une légère inflexion, mais historique, des déplacements en voiture. Ensuite, nous avons un bassin multipolaire auquel les offres de mobilité doivent être adaptées. Et un autre constat, il y a deux fois plus de flux domicile-travail entre Saint-Étienne Métropole et le Forêt qu'entre Saint-Étienne Métropole et la métropole de Lyon. Donc c'est quand même important. On s'imagine toujours que les mouvements se font vers Lyon, mais pas du tout. Ça se fait vers la plaine du Forêt. Il y a sept chiffres clés à retenir dans le cadre du diagnostic. Saint-Étienne Métropole, c'est 765 000 déplacements par jour de moins de 3 km, dont 287 000 en voiture individuelle, soit 38%. Chaque jour de semaine, environ 50 000 véhicules de non-stéphanois entrent dans Saint-Étienne. À ce jour, seulement 220 places en parc relais assurant un accès attractif aux lignes fortes métropolitaines depuis l'anneau de rocade autour de Saint-Étienne, la Terrasse, la 72, ligne T1 et T3. Des lignes de bus M, métropolitaines, donc très chargées en fréquentation, mais à une vitesse commerciale très faible, moins de 10 km en centre-ville. À Saint-Étienne Métropole, il y a 4 km de rue piétonne sur l'ensemble des 53 communes, 3,4% des voiries aménagées pour les vélos, y compris les zones 30. Une gamme tarifaire multimodale existante à l'échelle de métropole, attractive, mais souvent méconnue. Et enfin, la qualité de l'air. 74 000 résidents sont en zone altérée à très dégradée, soit un habitant sur 5 de la métropole. On est dans le constat. Quelle va être la stratégie multimodale 2040? Donc, vous avez compris, plan de mobilité 2025, horizon 2035, voire 2040, au service de la qualité de vie métropolitaine. Le plan de mobilité structure une vision de projet global. Une vision stratégique multimodale en global à 2040. Une brique du projet de territoire métropolitain qui s'articule au PLUI, au PPAGOS. PPAGOS, c'est le projet partenarial d'aménagement JE-ONDEN, Saint-Étienne-Sud, au SCOT, etc. Une programmation des actions à 2035 qui forme le socle d'évaluation environnementale des impacts trafic, air, bruit et compagnie. Des projets dont les études, les validations, les réalisations sont à répartir sur au moins 2 mandats et demi. Donc là, on arrive en fin de mandat. Mandat 2026-2032 et suivant. Donc ce que le Conseil métropolitain va valider avant la fin de son mandat engage, et vous l'avez compris, l'avenir à long terme. Un plan d'action qui inscrit et valorise des projets, mais aussi le renouvellement lourd de matériel roulant, d'infrastructures et de patrimoine. Premier défi. Alors si vous voulez m'interrompre dans cette présentation, on prendra plutôt des questions à la fin, parce que là j'ai simplement fait un tri dans la synthèse qui avait été proposée et présentée en commission. Premier défi, c'est de favoriser des déplacements courts, moins consommateurs d'énergie et d'espace, avec des objectifs principaux. 200 km d'itinéraires cyclables structurants en 2035, 20 stations et 500 vélivers supplémentaires. Un plan piéton agissant en priorité sur les principaux centres-villes. Moins 7% de kilomètres véhicules pour les déplacements internes à la métropole en journée en 2035. Et jusqu'à 50 véhicules en autopartage sur le territoire métropolitain. Ça peut sembler faible, 50 véhicules en autopartage. En fait, ça ne sera pas évident à atteindre. Deuxième défi, proposer des services de mobilité alternatifs à l'autosolisme pour les déplacements entre le cœur de la métropole et les vallées urbaines. Objectif, 110 km de ligne M métropolitaine cadencée toute la journée et circulant jusqu'à 22 heures, 1500 places en parc relais, facilement accessible depuis la rocade routière Saint-Étienne et bien connecté aux lignes T et M du réseau métropolitain, moins de 50% de part modale de la voiture individuelle en 2035 pour les déplacements internes à Saint-Étienne Métropole, l'amélioration du cadencement, de l'amplitude, de la régularité des 4 branches ferroviaires. Alors les 4 branches ferroviaires, c'est Lyon, Montbrison, Roanne et la Haute-Loire. J'en parlerai plus tard. 50 000 voyages jour en plus sur le réseau des transports publics métropolitains et régionaux. Le défi numéro 3, c'est de garantir la mobilité pour tous, avec comme objectif 20 sites de déploiement de consignes vélos sécurisées en rabattement sur les lignes T et M depuis les quartiers de grands ensembles, au moins 5 PDME, des plans de déplacement mobilité entreprise, par an, qui atteignent le standard de labellisation incitative pour renforcer les alternatives à l'autosolisme sur les flux domicile-travail. Donc, ce sont des plans qui sont bâtis spécifiquement avec certaines entreprises. Un maillage de 25 aires de covoiturage, dont la moitié de sites aménagés, pour faciliter et sécuriser un usage plus rationnel, économique et écologique des voitures. Le défi numéro 4, c'est d'aménager, de qualifier et de partager l'espace public pour toutes les mobilités au profit de la qualité de vie métropolitaine. Objectif A72, RN88, RM201, ça, c'est de créer un anneau de rocade plus performant que l'existant, plus homogène et plus respectueux des riverains autour de Saint-Étienne, avec des profils à deux voies, échangeurs complétés sécurisés, information dynamique et insertion environnementale. Des boulevards urbains multimodaux de qualité dans les centralités urbaines de Saint-Étienne et des vallées. 30 000 habitants de Saint-Étienne Métropole bénéficiant d'une baisse significative au moins de 3 décibels de l'exposition de leur logement au bruit routier. Défi numéro 5, améliorer la logistique urbaine et garantir l'accessibilité économique du territoire. Objectif, défense de la robustesse, de la résilience et des temps de parcours des infrastructures donnant accès national et régional à la métropole. Maintien de l'intégrité foncière et de l'exploitabilité des embranchements ferroviaires fret de Saint-Étienne Métropole et de la plateforme aéroportuaire de Saint-Étienne-Loire. Meilleur respect du stationnement sur la voirie, des aires réservées aux livraisons grâce au déploiement de contrôles automatisés et soutien aux initiatives privées de logistique urbaine regroupées. Donc pour accéder à l'objectif d'une métropole accessible, il faut une métropole connectée à son bassin de vie, une accessibilité métropolitaine à maintenir et à sécuriser. Alors, je vous passe le détail. Hein. TGV à Château-Creux, TER direct pour Pardieu, nœud autoroutier de Ternay, tarification combinée TER Rhône Express, etc. Il faut aussi un réseau routier structurant à fiabiliser et à sécuriser, en particulier l'amélioration de la rocade céphanoise, l'aménagement de la rocade ouest RM201, boulevard urbain du Georgier, déviation de la RD500, avec des vitesses maximales homogénéisées ou régulées. Et enfin, vers la création d'un CERM stéphanois. Alors, le CERM a été labellisé au niveau national. C'est le Service Express Régional Métropolitain. Donc, l'idée, c'est de déployer par palier entre 2028 et 2040 sur l'étoile ferroviaire à 4 branches. Ça veut dire qu'un CERM, c'est une étoile ferroviaire, et on pensait que Saint-Étienne ne serait qu'une branche de l'étoile du CERM de Lyon, de l'étoile ferroviaire de Lyon. Saint-Étienne a été labellisé pour être un CERM à part entière, avec les directions que je vous indiquais, Roanne, Montbrison, Lyon et la Haute-Loire. Donc déploiement par palier, car express, coordination des dessertes et des tarifications, et création de PEM, fer, routier, cyclable à la Grand-Croix et à Boutéon. Pour une métropole attractive cette fois-ci, il faut un réseau avec armature des transports en commun métropolitains. Donc ça veut dire le renforcement et le maillage des trams. Donc c'est surtout renfort des fréquences et des emports du tram. Donc il y a tout un détail, hein, vous l'avez dans le document, je ne vais pas vous détailler les réseaux et les circuits. Il faut faciliter l'intermodalité, proposer des alternatives à l'autosolisme. Donc, renfort en particulier des parkings et relais en gare, relance de l'autopartage, amélioration de l'information multimodale, accompagnement et l'habilitation des PDME et des PDIC. Une stratégie de stationnement cohérente, principe d'extension progressive du stationnement payant sur la voirie autour du tram et des normes PLUI. Principe de développement des zones bleues autour du réseau M. Pour une métropole en partage. Donc vous voyez qu'il y a des thématiques qui sont ciblées. Donc une hiérarchisation multimodale renouvelée du réseau de voirie, donc avec en particulier un accès clair au parc de stationnement en ouvrage. Donc l'idée, c'est d'avoir des parcs de stationnement en entrée de ville. Les gens viennent en voiture, parc de stationnement et ensuite transport en commun. La marche, donc favoriser la marche au cœur des attentions. Donc généralisation des zones 30 en milieu urbain et un plan piéton sur les principales centralités urbaines. Un plan vélo métropolitain, donc ça vous le connaissez, il est en cours, avec des itinéraires supplémentaires à ceux qui existent à l'horizon 2029, des offres de stationnement vélo sécurisées en rabattement sur les réseaux T et M, donc les réseaux transports en commun, Véliver, donc un renfort des maillages de stations et des parcs de vélos, et puis à l'amélioration de la sécurité, la lutte contre l'insécurité routière, médiation et sécurité des transports publics, résorption des passages à niveau ferroviaire locaux et contrôle automatisé du stationnement et des aires de livraison. Donc voilà, là on a eu une présentation du constat et des enjeux pour 2035 et 2040. Alors après on en reparlera, mais c'est vrai que c'est très 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 complet et très diversifié. Toutes les problématiques des mobilités sont prises en compte. Il y a bien sûr une ambition budgétaire. Projet connu et intégré au plan de mobilité, c'est 650 millions d'euros. Sur 10 ans, voire 15. À la charge de Société Métropole en investissement, c'est 500 millions d'euros. Mais 500 millions d'euros en investissement, si ramené sur 10 ans, ça ne fait que 50 millions d'euros d'investissement, dont le renouvellement et l'extension du parc mobile, les trams, les bus. Tout ça, c'est, on en consomme chaque année. Donc, ça n'est pas non plus ahurissant quand on raisonne à l'année et par rapport aux investissements actuels. Et à la charge de SEM, cette fois-ci, en fonctionnement, donc 500 millions d'investissements, en fonctionnement, c'est 10 millions d'euros par an, dont, et en, à côté, 3 600 000 euros de surcroît de recettes. Donc voilà, 10 millions de plus en dépenses d'exploitation, entretien, frais de personnel, etc. Et 3,6 millions de recettes en plus estimées. Voilà les enjeux qui sont financiers. Le plan d'action du plan de mobilité permet d'atteindre l'objectif des 50% de déplacements automobiles et 50% des déplacements en alternatif en 2035. Ce sont les projections et les objectifs. Donc, pour les déplacements internes à Saint-Étienne Métropole, l'horizon de moins de 50% de part modale de la voiture est atteignable, d'après toutes les études qui sont faites. Après, ça dépendra de l'attitude, bien sûr, des utilisateurs, des gens qui se déplacent et surtout des moyens qui leur sont proposés. En distance parcourue, le plan d'action plan de mobilité entraîne une baisse de 7% des véhicules ramenés au kilomètre en 2035. Enfin, le trafic routier est réorienté sur les axes rapides et l'anneau stéphanois de rocade. Les traversées urbaines sont nettement déchargées du trafic routier. Saint-Étienne, Vallée de Londaine et Dugier, conséquence de la généralisation des zones 30. Les améliorations d'offres du CERM et de la STAS permettent de contenir le trafic sur le réseau routier rapide, sauf sur la rocade ouest, où l'objectif est justement d'y orienter davantage de trafic d'agglomération. Donc voilà, je vous ai fait une synthèse sur le constat, sur les objectifs, qu'ils soient sociologiques ou pratico-pratiques, et puis sur l'aspect financier. Ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est que c'est un plan très ambitieux, qui pose beaucoup, beaucoup d'opportunités et de solutions. Bon, par exemple, pour le déplacement en voiture, l'idée, c'est qu'on puisse s'arrêter dans un certain nombre de parcs relais très importants en entrée de ville, et qu'après, les gens utilisent les transports en commun. Ce qui nous concerne, par exemple, un parc relais sur la Doie, les gens ils déposent leur véhicule, et ensuite, bien sûr, prennent les transports en commun. Je vous l'avais dit, je l'ai dit le 19, dans le plan de mobilité, ce n'est pas détaillé. Ils ont intégré le doublement de l'échangeur de l'avenir, la transformation d'un parc relais sur la Doie et du parc relais actuel en parc public de stationnement. Des propositions que nous avons faites, nous, commune de Saint-Priest. Donc voilà un peu le contexte. Moi, mon sentiment, c'est que ce plan de mobilité, on ne peut pas être contre. Mais, comme toujours, on raisonne à 2035, voire 2040. Ça veut dire qu'on va supposer que nos habitants vont s'adapter à ces nouveaux modes de mobilité. Quand on me dit, vous faites une piste cyclable, mais il n'y a pas de vélo, c'est vrai. Mais peut-être que si on fait une piste cyclable, demain, il y aura des vélos. Voilà. Donc c'est offrir la possibilité aux gens de se déplacer autrement. Quand on voit que les gens se déplacent pas, bien souvent pour des distances de moins de 3 km, c'est sûr qu'on peut se poser la question sur les modes de déplacement. L'autosolisme, on sait ce que c'est une personne par véhicule. On connaît les règles qui s'imposent maintenant dans les grandes villes avec des voies réservées sur certains axes et une sanction pour ceux qui utiliseraient ces axes tout seuls. Voilà, il y a tout un ensemble de phénomènes qui se mettent en place. Donc voilà, moi je ne suis pas non plus, avec Claude, on a suivi ça au niveau métropolitain. Et je dirais simplement que quand on parle du CERM, Roanne, Montbrison, Lyon, la Haute-Loire, on n'est plus à l'échelon de la métropole, 53 communes, On n'est plus à l'échelon du SCOT, qui regroupait communauté communes du Pilat, Loire-Forêt-Aglo, Forêt-Est et Saint-Étienne, 198 communes. On va beaucoup plus loin. On parle de Roanne, on parle de Lyon, on parle de la Haute-Loire. La question qui est sous-jacente, et qui aujourd'hui n'est pas posée, c'est qui, demain, en 2035 ou 2040, assurera, je dirais, l'exécutif de ce dispositif. Parce que les décisions qui seront prises, par exemple, en ferroviaire, quand on dit on va renforcer les lignes vers Montbrison-Roanne, on parle en particulier, bon, pas seulement, mais la gare de la Fouillouse, ça veut dire renforcer les réseaux ferroviaires. Donc, il faut y associer forcément la SNCF. Il faut revoir les quais de gare. Il faut revoir les stations. Voilà. Je veux dire, il y a tout un ensemble d'enjeux. Et c'est pour ça qu'on arrive très facilement à 500 millions d'euros. Je pense que ça répondra à des interrogations, à des questionnements que peuvent avoir les gens. Et in fine, s'il y a des TER ou des trains assez fréquents pour Lyon, des dessertes directes plus régulières et des trains qui sont plus longs, mais plus longs, plus de wagons, ça veut dire des quais adaptés, avec une autre typologie de dessertes, ben moi, ça me semble aller dans le bon sens. Voilà, c'est tout. Après, c'est un plan, hein, vous l'avez compris. Ceux qui arriveront derrière à partir de 2026 auront des choix à définir en termes d'action et de choix budgétaires. Le prochain conseil métropolitain, il n'arrivera pas en disant « Allez, on met les 500 millions sur la table et c'est parti. » Non, ça ne se passera pas comme ça. Et vous avez compris qu'au fil du développement de ce plan de mobilité, on sera confronté, évidemment, à des difficultés. Parce que ce soit sur Lyon, sur la Haute-Loire, il y aura des enjeux. Renforcer les liens avec Métropole en tant qu'étoile pour la Haute-Loire, c'est attendu. Il suffit de voir à Château-Creux le matin le nombre de trains qui viennent de la Haute-Loire, de Firminy, etc. Donc là, il y a un existant qui a permis de construire d'ailleurs ce plan de mobilité. Après, à partir de là, on verra bien concrètement comment ça pourra se mettre en œuvre. Mais il est important qu'on puisse en débattre maintenant, voire le voter avant la fin du mandat. Et on est à la même démarche, quelque peu décalée, mais quand même, avec le PLUI. Le PLUI ne sera pas voté, ne s'appliquera pas à partir de la fin 2025, mais il a vocation à être voté, validé par le Conseil métropolitain existant pour l'avenir. Vous avez des questions ? Je ne pense pas que dans cette problématique de mobilité, on ait eu des omissions. Je ne sais pas si Claude veut compléter. Je pense qu'ils ont vraiment balayé l'ensemble de l'existant avec toutes les perspectives, avec des études qui ont été très, très, très complètes en termes de réalité. Moi, j'étais convaincu que le flux, c'était Saint-Étienne-Lyon. Jamais je m'étais dit, non, c'est Saint-Étienne-la-Plaine. Alors si, quand on prend l'autoroute à certaines heures à la Fouillouse, on s'en rend compte. Mais je ne pensais pas que c'était de cette densité-là. Michel Cosset. Alors, le projet Massé, je pense qu'il a été... Il y avait deux raisons à ça. La première, c'est que 7 millions à l'époque, avec 2 millions de dettes de l'État, donc point de suspension aujourd'hui, mais surtout, il y avait encore une dimension technique qui n'était pas résolue. Par exemple, l'acquisition des terrains qui appartiennent à la SNCF autour de la gare de la Terrasse. Cette dimension-là n'était pas encore actée. Or, on sait qu'il faut que tout soit acté pour dire, à un instant T, on commence les travaux, d'abord les processus de consultation publique, de validation du projet, des différentes options, on commence les travaux le 1er juillet ou le 15 juin de telle année. Donc là, on était dans des délais beaucoup trop contraints. Donc je pense qu'il y a effectivement la dimension budgétaire, la dimension d'avancée du dossier, parce qu'il y a encore beaucoup de problématiques à régler, et puis comme ça concerne pleinement la question de la mobilité, vous l'avez compris, on a très très peu de places en parc relais, en particulier en entrée de ville, que ce soit au sud ou au nord, il va falloir énormément diversifier. Quand en réunion, il y a des personnes qui sont interrogées sur l'extension de la ligne de tram jusqu'au Steel, jusqu'au Pont de l'Âne pour plus précisément, les gens ont dit mais ça ne sert à rien, il y a déjà des bus qui vont au Steel. Et là, les services ont dit mais ce n'est pas ça du tout. Il faut qu'il y ait un grand parking relais au pont de l'Âne pour que les gens qui arrivent de la vallée du Gier se garent là et ensuite prennent les transports en commun. Donc ce n'est pas une desserte de Saint-Étienne intramuros vers le pont de l'Âne, c'est l'inverse. C'est pour accueillir les personnes qui viennent de l'extérieur, qu'ils puissent stationner et se rendre en ville par les transports en commun. Donc il y a tous ces enjeux qui sont bien appréhendés. Voilà. Donc 2035-2040. Ben oui, bien sûr.
Oui. Oui, Claude Bruno. Je voulais dire deux ou trois petites choses. Dès cet été, vous allez voir sur Saint-Étienne un début déjà de travaux qui vont se mettre en place pour avancer dans le domaine. Notamment, il va y avoir l'apparition de nouveaux bus, trolley, électriques, etc. Tous ces bus qui partent sur la Métard et sur tout ça ne partiront plus de Violette, mais ils vont partir sur la rue à côté, en face de l'office de tourisme, là. Donc, il va y avoir des aménagements qui vont être faits. Par ailleurs, ils vont commencer les mises en sécurité des circulations des bus, c'est-à-dire qu'il va certainement y avoir par endroits des voies qui vont être rétrécies au niveau des voitures pour justement favoriser le passage des bus, parce qu'actuellement les bus sont vraiment limités dans la circulation. Et l'autre point, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a d'immenses difficultés pour gérer les flux, parce que les gens ne pointent pas. Alors, ce n'est pas forcément des gens qui veulent truander et ne pas payer. Les gens payent, mais même ceux qui sont au courant ont du mal à admettre que s'ils changent de wagon, s'ils changent de transport, on prend le tram et on prend un bus plus loin, ils se disent « j'ai le droit de circuler pendant une heure », ils ne repointent pas quand ils vont dans l'autre véhicule. Et ça pose un énorme problème à Métropole pour la gestion des flux. Donc, on est encore sur une forme d'empirisme pour cette gestion des flux. Pas si vous voyez ce que je veux dire, et sans que ce soit forcément méchant et truandage de la part des gens. Voilà.
Ouais, il y a aussi le problème technique des carrefours et des intersections. Il va falloir que les transports en commun, quels qu'ils soient, comme le tram, il est prioritaire quand vous arrivez à un carrefour, il se déclenche au vert et s'arrête tout.
C'est prévu. Hein.
Ça c'est prévu aussi pour les bus à terme. Quand on dit qu'ils roulent en moyenne à moins de 10 km/h en centre urbain, ça pose un problème. On peut ramener toutes les... D'un point de vue volumétrique, le nombre de bus, s'ils roulent aussi lentement, les gens ne le prendront pas forcément. Donc il y a ça, il y a beaucoup de choses, y compris, alors vous avez dans le plan de mobilité, si ça vous intéresse, tout le détail des extensions, des modifications de lignes. On dit qu'il pourra très bien y avoir une ligne de bus qui partira de Saint-Chamond, part d'Angonan, Sorbier, La Talot, et pour aller jusqu'à Roche, en passant par la Terrasse. Bon voilà, c'est-à-dire des transversales carrément, parce qu'il y a des besoins de desserte, en particulier sur tous les sites scolaires, il y a le long de ce trajet. Donc ça, tout ça, c'est réfléchi. Ça demande d'énormes moyens, vous l'avez compris. Il y a des études qui sont faites en parallèle, mais ça, c'est plus spécifiquement sur les transports, sur les besoins. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, une desserte d'un collège ou d'un lycée qui part à 8 heures et qui amène les élèves à 8h30 au collège ou au lycée. Ça pose le problème pour les gamins qui commencent qu'à 9h30. Mais on ne peut pas non plus adapter l'ensemble de nos... transport en commun à la spécificité des horaires. Et ça, il y a des demandes qui sont faites dans ce sens, en particulier des parents. Mais c'est pas possible. Je veux dire, les transports en commun, c'est pas à la carte. C'est pas possible. Il y a des horaires. Je reconnais que c'est pas forcément pratique. Mais parce que nous, on voit aussi, on est à Saint-Prié, on est au bord de Saint-Étienne, on a le tram, on a le bus. Mais pensez aussi aux petites communes rurales qui ont les mêmes problématiques, en particulier peut-être plus que nous, en termes de desserte pour les élèves et les collégiens et les lycéens. D'autres questions? On va passer au vote alors. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, nous adoptons le projet de plan de mobilité à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc, vous avez compris que tous les conseils doivent se prononcer. Un mois de consultation publique. Et puis après, la présentation d'ici la fin de l'année en conseil et en bureau métropolitain. Je vous remercie. Comme on vous l'avait annoncé précédemment, on vous avait dit qu'on ferait sans doute cette année des budgets modificatifs. Donc là, vous avez le premier. Alors, je vais vous faire grâce des documents. Alors, les documents, j'ai toujours dit, c'est des documents comptables, imposés, etc. Franchement, ils sont inutilisables. Vous avez un nombre de pages incroyable avec des zéros. Il n'y a rien. Donc moi, je vais essayer de vous en faire... La synthèse. Dans les investissements, nous avons pour 172 900 euros de dépenses supplémentaires. 172 900. Merci. 172 900 euros de dépenses et 67 337,19 euros de réduction de dépenses. Ce qu'il faut retenir dans les dépenses, Jules Ferry, un solde de 10 000 euros. La vidéo, 8 400. Des candélabres pour Jules Ferry, 22 382. Le réseau donc d'éclairage public à Ratarieux, 9 445. L'éclairage route de l'Etra, 1 449. Et l'éclairage complexe sportif, 10 000. Donc on a 18 400 sur le premier poste et 43 276 sur l'autre. Je vous cite toutes les dépenses supplémentaires par rapport au budget initial qu'on avait voté antérieurement. Piste cyclable, nous avons des dépenses supplémentaires de 42 768 pour les plantations des arbres. Et nous aurons la recette équivalente sur ce poste-là. Le minibus, 33 550, je l'ai dit à certains. On a eu une opportunité d'acheter un second minibus qui était vraiment adapté au transport des personnes à mobilité réduite puisqu'il pouvait accueillir jusqu'à 3 fauteuils. Donc, on a contacté l'entreprise. Et on leur a demandé de modifier ce minibus pour qu'on puisse avoir plus de places assises parce qu'il n'y en avait que 3. Donc ça veut dire qu'on va avoir 2 minibus, l'ancien, il roule encore, mais dans des conditions qui nous posent problème, et puis un nouveau totalement adapté qui fait moins de 10 000 km. Le mobilier pour la médiathèque, 2130 euros, la crèche 400, la rampe dans la cour de la crèche 3064, tout ça, ça fait 81 912 euros. On a également sur Jean Massé une réduction de 62 688 euros et sur Jules Ferry, le solde des travaux de 92 000 euros. Donc on arrive à 172 900 euros moins les 67 337 euros, ce qui fait 105 562,81 euros de budget complémentaire en investissement. C'est ce que vous retrouvez dans les documents. En recettes, donc on a Saint-Étienne Métropole qui nous remboursera les plantations pour 42 768 euros et une subvention pour la rénovation du chauffage au CTM pour 1698 euros, ce qui fait 44 466 euros. On rajoute la dotation du fonds de compensation à la TVA à hauteur de 14 415 euros et la taxe d'aménagement à un ajustement pour 50 261 euros et on arrive là aussi en équivalent recette à 105 562,80 euros. Vous les avez dans les documents, vous avez beaucoup de détails, des plus, des moins. C'est le montant qu'on propose en augmentation du budget d'investissement. Des questions par rapport à ça? Oui. Maintenant, je vais passer, si je retourne ma feuille, voilà, au budget de fonctionnement. Il est plus simple. Alors, ça, c'est ce qu'on a, on vous le présente en investissement. Parce que ce sont les investissements connus. On sait, on veut acheter un minibus, on n'est pas budgété, on le met 33 000 euros. On a eu la fin de chantier de Jules Verne. Alors même si on l'appelle encore Jules Ferry, parce que le projet c'était, à l'époque, c'était Jules Ferry, c'est les fins de chantier, donc il faut bien les payer. On ne les a pas forcément budgétés. Donc tout un ensemble de dépenses comme ça, et on profite justement pour actualiser ce budget. Mais on aura peut-être encore d'autres aménagements à faire à la rentrée. Vraisemblablement d'ailleurs. On en parlera tout à l'heure. Pour le fonctionnement, nous avons une augmentation de 1 050 euros pour la formation SIAP du NEC. SIAP, c'est la formation à la sécurité. Hein. 3 000 euros, c'est la subvention qu'on a décidé d'accorder au comité de jumelage pour accueillir les 200 marins fin septembre. On n'avait pas budgété, donc là, on le fait. Et 11 873 euros, qui sont le prélèvement de l'État dans le cadre de Dilico. Dilico, vous savez, c'est un prélèvement d'État sur les communes les plus riches, il y en a 10 dans la Loire, on en fait partie. Alors les plus riches, c'est celles qui ont des revenus fiscaux moyens. Et on compare par rapport à la strate. Et comme l'avait dit l'AMF, il ne faut pas prendre la moyenne des revenus fiscaux, il faudrait prendre la médiane. Parce que pour peu que vous ayez 3 ou 4 millionnaires dans une commune, et beaucoup de personnes avec des faibles revenus, la moyenne, elle sera élevée. Donc cette notion de moyenne, c'est un biais. Bon, après, c'est comme ça, hein, l'État a décidé de calculer comme ça. En ce qui nous concerne, donc, ils nous font un prélèvement direct sur nos recettes fiscales de 11 873 euros, qui devraient nous être remboursés à partir de 2026, voire 2027, mais pas en intégralité, puisque l'État en conserverait, on parle de 10%. Voilà. Donc, bon, je n'ai pas la liste exhaustive des communes, je sais qu'il y a Saint-Galmier, bien évidemment, il y a Andrézieux, il y a Saint-Romain-le-Puy, ça peut paraître surprenant, mais il n'y a pas les trains, par contre. Bon, voilà, c'est des choses qui sont un peu surprenantes, mais voilà, c'est comme ça. Nous avons, en moyenne, des contribuables à Saint-Prié qui sont riches. Bon. On connaît cette logique qui nous a fait perdre, sur l'ancienne mandature, l'intégralité de notre allocation globale de fonctionnement. Avec Michel et l'ancien maire, on est allé voir le préfet. Personne ne nous a pu nous expliquer ce qui se passait, parce que c'est très complexe. Il y a les revenus objectifs, il y avait notre fiscalité faible, en particulier sur la taxe d'habitation, mais il y a toutes les règles d'écrétage. Quand on nous compare à la strate, donc plus de 6 000, moins de 9 000 habitants, commune urbaine, etc., et c'est inexplicable. On a du mal à trouver tous les paramètres pour dire c'est sur celui-là qu'il faut agir pour qu'on ne perde rien. Et il y a une donc 15 923 euros de dépenses en plus, une régularisation des dotations provisions de moins 5 916, donc l'augmentation du budget de fonctionnement en dépenses est de 10 007 euros. Qu'est-ce qu'on a en contrepartie? Eh bien, on a le FCTVA pour 15 5,90 euros, remboursement sur les salaires de nos assurances pour 3 000 euros et des reprises sur provisions en négatif de 7 998,90 euros, soit là aussi, pour équilibre, une augmentation de nos recettes de 10 007 euros. Vous retrouvez ces chiffres dans les documents qui vous ont été communiqués. Moi, j'ai souhaité vous en faire une présentation très simple en vous disant où c'était et pourquoi, parce que de toute façon, on aura sans doute des ajustements dans l'avenir encore à faire. Des questions par rapport à ça? Donc, un, on finit le chantier Jules Verne, donc il faut payer les fournisseurs. Deux, il y a le minibus. Trois, il y a des petits ajustements, on n'avait pas prévu, il y a 400 euros pour le jardin d'enfants, il y a deux tabourets supplémentaires pour le NEC, parce qu'on n'avait prévu que deux, il en fallait quatre, voilà. Des petites choses comme ça, on en a profité. On aurait pu dire, comme les autres années, on attendra la rentrée pour voir comment ça évolue. Là, on les passe. On sait qu'on peut, d'un point de vue équilibre comptable, vous les proposer. On le fait. On agit derrière. On va faire tout ce qu'on vous propose et on passera à autre chose. Et je suis content pour le minibus parce qu'on a eu vraiment une belle opportunité. Alors, l'ancien, on continuera à l'utiliser, hein, bien sûr, mais on en aura deux comme ça. Et on sera beaucoup plus... Comment ? Sur les grandes distances, en particulier pour les associations qui nous... Si on les loue, ça sera beaucoup plus tranquillisant. Et puis, il y a des événements. Bah, peut-être qu'on pourra, par exemple, au lieu de louer un car pour la semaine bleue de EMIS, anciennement Orpea, bah, avec deux minibus, on pourra peut-être transporter les 4 ou 5 fauteuils roulants que normalement, ils mettent dans un bus, par exemple. Parce que les chauffeurs, on les aura toujours. Ce sont des bénévoles. D'autres questions par rapport à ces demandes modificatives? On peut passer au vote? Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Donc, le budget modificatif modifié est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Je te laisse les pompes funèbres.
Alors, effectivement, sur le budget primitif, il faut prévoir une avance remboursable du budget des pompes funèbres au budget principal. Alors, monsieur le maire expose que le budget annexe des pompes funèbres est un budget qui utilise de manière obligatoire la comptabilité de stock. Alors, ce n'est pas du tout comme la comptabilité du budget général. Notamment, c'est au niveau du suivi dans la vente des caveaux modulaires. C'est la section d'investissement qui retrace la comptabilité en compte de classe 3. Bon, ça, ouais. On constate un déficit d'investissement en période de stockage, c'est-à-dire qu'on a fait des travaux pour faire des caveaux, on ne les a pas vendus. Donc forcément, on a dépensé plus qu'on a encaissé. Donc on a un déficit. Ce déficit se résorbe en période de déstockage, lorsqu'on arrive à vendre des caveaux modulaires. Il n'y a jamais d'excédent d'investissement pour ce type de budget. En fait, on raisonne qu'en stock. On en a 30, on en a vendu 10, on a un déficit de 20. Par contre, on en a eu 10, on les a vendus. On n'a pas de déficit. L'excédent de fonctionnement de ce budget retrace la plus-value réalisée, le cas échéant, lors de la vente des biens, sachant qu'on les vend un peu plus cher que ce qu'ils nous ont coûté, puisqu'il y a beaucoup de travail de la part de nos services techniques pour les caveaux. Forcément, si on en vend, on peut faire de la plus-value. Comme dans toute comptabilité, la reprise des résultats est obligatoire chaque année au niveau des prévisions budgétaires, ce qui pose le problème des variations de stock d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que si on a des excédents, il faut qu'on les affecte quelque part. ce qu'on a fait lors du budget primitif où on a affecté l'excédent, en particulier une partie sur la section d'investissement. Afin de présenter un budget des pompes funèbres équilibré, il convient de prévoir une avance remboursable du budget des pompes funèbres au budget de la commune. C'est-à-dire que comme on ne sait pas où affecter cette avance, cette plus-value sur le budget des pompes funèbres, puisqu'il n'y a pas de, c'est pas prévu, à ce moment-là, on le rebascule sur le budget, parce qu'en fait, c'est la même caisse. Enfin, c'est deux budgets différents, mais c'est quand même les finances communales. Donc, on le rebascule sur le budget général. Donc, on fait une avance remboursable du budget des pompes funèbres au budget de la commune. Et bien entendu, on la réajustera chaque année en fonction des achats et des ventes de caveaux modulaires de l'exercice précédent. Donc, pour cette année, on vous demande d'approuver l'inscription des crédits suivants. Au budget primitif 2025 des pompes funèbres, une dépense d'investissement, puisque c'est un plus-value d'investissement, remboursement autre dette d'un montant de 2 336,81 €. Et par décision modificative numéro 1 de l'exercice 2025 de la commune, une recette d'investissement au compte 276-38, créance d'autres établissements publics d'un montant de 2 336,81 €. Donc on a gagné sur la vente des caveaux modulaires 2 336,81 € qu'on réaffecte à la commune. Et bien entendu, si on en a besoin de cette somme-là, on la rebasculera dans l'autre sens. Pas forcément la même somme, mais ce dont on aura besoin. Voilà pour les caveaux, pour l'avance des.
Je crois que pour l'an prochain, il est prévu des dispositions particulières pour les pompes funèbres, non ? Il n'y a pas de. Non ? Ça reste scindé mairie et pompes funèbres. Bon, okay. Donc voilà, qui est contre cette décision ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc on valide cette décision modificative. Et c'est Michel qui va continuer à nous présenter cette fois-ci les admissions nouvelles.
Oui, alors ça repasse régulièrement, hein. C'est ce qu'on appelle les marrons en journalisme. C'est les admissions non-valeur de la commune de Saint-Priest-en-Jarret. Donc je vous rappelle, hein, on émet des titres de recettes quand les gens nous doivent de l'argent, quand ils ont utilisé les services, quand ils ont acheté des caveaux, quand ils ont les entreprises, quand elles payent la taxe locale sur les publicités. Et il arrive que les gens ne payent pas. Donc c'est à ce moment-là le comptable de la commune qui est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on voit par exemple, nous, c'est nous qui encaissons, par exemple, pour l'enfant jeunesse ou la cantine. Lorsqu'on fait des rappels et que les parents ne payent pas, on émet ce qu'on appelle un titre de recette, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, telle personne nous doit tant d'argent. On le bascule au trésor public et à partir de ce moment-là, c'est au trésor public d'encaisser ces sommes. Alors, des moments, il y arrive et des moments, il n'y arrive pas. Et donc, quand vraiment le comptable public a épuisé tous les recours qu'il peut avoir, que ce soit une lettre d'avertissement, un rappel, une mise en demeure, après, on peut passer à l'huissier ou tout, et ben il y a des moments où on n'arrive pas soit à retrouver les gens, soit à récupérer les sous. Et donc, c'est là qu'il faut effectivement admettre ces sommes en non-valeur, c'est-à-dire que bah, tant pis, c'est de l'argent perdu pour la commune. Mais comme on l'avait inscrit en recette, il faut qu'on en fasse un mandat pour réintégrer cette somme qu'on ne touchera pas en recette en dépense. Si vous avez quelqu'un qui vous prête 1 000 euros s'il ne vous les donne jamais, eh ben, ça n'a pas été une avance, ça n'a pas été un gain pour vous, mais au contraire, ça a été une dépense. Vous avez perdu 1 000 euros. Donc cette année, c'est pour la somme de 2 570,15 €. Et ça concerne essentiellement beaucoup de services de prestations, que ce soit la crèche, le périscolaire, les cantines, la crèche et les garderies, hein, pour beaucoup. Ça peut être aussi, quand la somme est toute petite, ben c'est inférieur au seuil de poursuite. Le trésor public ne poursuit que si... Pardon ? Non ? Je croyais que tu me demandais quelque chose. Oui, ça c'est quand on met les voitures en fourrière, on demande aux gens de rembourser. Voilà. Mais bon. Et parfois, ils ne remboursent pas. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, il y avait un monsieur, il devait 6,49 €. On ne va pas faire une poursuite, on ne va pas lancer une lettre d'huissier pour 6,49 €. Donc, ça tombe automatiquement. Mais il y a quand même des gens qui doivent des sommes au bout d'un moment. C'est toujours les mêmes qu'on retrouve. Et puis voilà. Eh bien, souvent, c'est que ils pourraient, mais ils sont insolvables. C'est des gens qui n'ont pas de salaire. C'est des gens qui n'ont pas. Non. C'est gradué, en fait. Ils le font. Oui. Bah, les non-valeurs, c'est souvent les gens qui sont insolvables ou alors des gens qui font du nomadisme. Ils sont bien spécialisés, ces gens-là. Ils restent 6 mois à 1 an dans une commune, ils font des dettes et puis après, ils s'en vont et ils ne donnent pas d'adresse. Donc, le temps qu'on les retrouve, ils ont déjà refait des dettes ailleurs et ainsi de suite. Donc, ouais. Donc effectivement, il faut qu'on réintègre cette somme de 2 570,15 €, qu'on les admette en non-valeur. Oui. Bon, y a de... Oui, mais c'est ça. Hein. Alors, il y a par exemple les délices du Punjab, ben, ça c'est pareil. Alors, eux, ils ont laissé une ardoise phénoménale. On a encore 1 000 € qui vient d'eux, mais comme eux, ils ont fait faillite depuis très longtemps, ben, c'est même pas. Et puis, il y a plus de. Comme on n'est pas, nous, ce qu'on appelle débiteurs prioritaires, c'est-à-dire que, ben, au départ, on paye les débiteurs prioritaires, c'est-à-dire les impôts, la CAF, les choses comme ça. Et puis après, ben, c'est la mairie, les fournisseurs, les choses comme ça. Mais quand il n'y a plus d'argent, ben, il n'y en a plus. Donc, ben, on ne récupère pas. Voilà. Donc, on vous demande d'accepter ces sommes en inscription dans valeur. Oui. On est obligé de le prendre. Non, ben on a eu une bonne nouvelle dans la journée. Normalement, il est inscrit à Saint-Étienne. Et quand je l'ai eu au téléphone pour essayer de lui dire que ça serait bien quand même qu'elle nous paye, elle m'a fait le coup du tunnel, c'est-à-dire quand je me suis présenté, Michel Bizastia, mairie de Saint-Prix. Oh là, excusez-moi, ça passe plus, ça passe plus, ça passe plus. Je vous rappelle, elle m'a jamais rappelé. Bon, ben c'est bizarre. Voilà, mais bon, on en a quelques-uns comme ça, on sait, ça fait partie malheureusement des. Donc je pense, il faut le voter, ça, oui, bien sûr.
Christian, juste intervenir, Rémi Mounier, au niveau du pôle enfance jeunesse, on a appliqué le fait, quand on a des factures comme ça en retard non payées, sur les périodes suivantes, on n'accueille pas les enfants. On attend que les factures soient régularisées au niveau du pôle enfance jeunesse. Alors ça n'arrive pas pour les séjours, parce que généralement, le règlement pour les séjours est avant le départ, mais surtout sur les vacances scolaires et les mercredis, d'une période sur l'autre. C'est pour ça qu'on avait réduit au trimestre, d'ailleurs, les inscriptions, parce que ça nous permet, d'une période sur l'autre, d'anticiper finalement une non-réinscription et de ne pas faire trop augmenter la dette envers la commune. Merci.
On a fait pareil sur l'école municipale des arts. Mais à la limite, bon, pour l'enfant jeunesse ou l'école municipale des arts, c'est moins préjudiciable à l'enfant. Là, la cantine, la crèche ou le péri, c'est plus problématique, on va dire, par rapport dans une dimension sociale et familiale. Je vous demande donc l'émission en non-valeur de ces titres pour un montant de 2 570,15 €. Je vous demande de m'autoriser à admettre en non-valeur les titres précités pour un montant de 2 570,15 € et émettre un mandat au compte 6541, émission en non-valeur, dont les crédits nécessaires sont ouverts au budget 2025 au chapitre 65. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie pour cette décision à l'unanimité.
Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les créances éteintes. Alors, la différence entre les admissions en non-valeur et les créances éteintes, c'est que les créances éteintes, il y a eu un jugement. Il y a eu soit une ça y est, j'ai perdu le terme, je vais le retrouver. Une liquidation judiciaire, merci. Soit une faillite, enfin voilà. Il y a la différence, c'est ça. Créance éteinte, on ne va pas revenir dessus. Même si on retrouve la personne, tant pis, ben c'est la créance est éteinte. Par contre, là, c'est suite à des jugements. Donc, le comptable de la commune, pareil, est chargé seul, je ne vous le redis pas, hein, de toutes les sommes qui sont dues. Le comptable du Trésor expose qu'il convient d'émettre un mandat au compte 65-42 du budget de la commune pour donner suite à la clôture pour insuffisance d'actifs de la procédure ouverte à l'encontre de Marny et restaurant aux délices et à l'effacement de dettes validées dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Donc effectivement, ces deux organismes-là, c'était des restaurants. Hein. Marny, je ne sais pas ce que c'était. Marny, c'était... Ouais, je sais plus. Ah, attends, je crois que je me suis trompée de l'objet de la dette. Marny, attends, je l'ai là. Il y a SARL Autozen qui a fait faillite. Il y a la Pizza Rive qui a fermé. Et il y a le restaurant Odélis et Marny. Alors Marny, je ne sais pas ce que c'est. Bon, il nous devait 111,60 €. Voilà. Donc il y a effectivement eu des jugements. Et donc pour un total de 3 216,96 €, on est obligé d'accepter l'insuffisance, enfin la créance éteinte. On voit quand même quand on ajoute les deux que ça fait pratiquement 6 000 € quand même. C'est quand même pas des sommes neutres, c'est pas des. Voilà. Donc, parce que pour la TLPE, il y en a quand même pour 3 216. Ça fait quand même. Donc on vous demande d'autoriser à admettre en créance éteinte les titres précités pour un montant de 3 216,96 € et d'émettre un mandat, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, au compte 6542 créance éteinte, dont les crédits nécessaires sont ouverts au budget primitif 2025, chapitre 65.
Donc vous savez ce que c'est que la TLPE, hein, c'est la taxe locale sur la publicité extérieure, donc c'est la redevance que les commerces nous doivent pour la partie publicitaire qui est visible de l'extérieur. Donc je vous demande de m'autoriser à admettre en créance éteinte les titres précités pour un montant de 3 216,96 € et émettre un mandat au compte 6542, créance éteinte, dont les crédits nécessaires sont ouverts au budget primitif 2025, chapitre 65. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc qui est pour ? À l'unanimité, on ne peut qu'entériner les conséquences de ces décisions de justice. Je vous en remercie. C'est toi, Rémi, qui prends.
Oui.
Donc, c'est Rémi Mounier qui va nous parler de l'actualisation des tarifs du centre de loisirs et de l'école du sport.
Oui, bonsoir. Donc, comme on fait toutes les années, donc on révise les tarifs pour les séjours organisés pour les enfants de la commune. Ça fait donc l'intégralité des tarifs pour l'année à venir, que ce soit le centre de loisirs, l'école du sport et du coup les séjours. Donc, au niveau des éléments d'information, comme chaque année dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse, la commune organise des activités pour les enfants de la commune, pour les vacances scolaires, séjours et centres de loisirs. La participation demandée aux familles varie selon leurs facultés contributives et elle est fixée par le conseil municipal selon 5 barèmes et en corrélation avec les engagements de la CAF de la Loire. Il convient de fixer dès à présent le prix de ces séjours, du centre de loisirs municipal et de l'école du sport. Afin de pallier l'augmentation du coût des activités, les tarifs subiront une légère augmentation. Donc, comme on l'a dit jeudi dernier au niveau de la présentation, on subit pas mal d'augmentations au niveau du centre de loisirs et notamment des sorties. On a notamment sur le transport et puis le coût des prestataires aussi. Pour donner un ordre d'idée, un transport dans un rayon de 40 km, donc c'est une sortie dans le parc du Pilat, c'est 750 €. Alors que c'était 600, un peu plus de 650 il y a 3-4 ans. Donc ça limite le nombre de sorties. Par rapport aux évolutions sur les tarifs, alors on a modifié deux choses cette année. La première chose, on a modifié les barèmes de coefficients. Donc comme on voit à l'écran, on attaque par un barème inférieur à 600 au niveau du premier QF, alors que jusqu'à aujourd'hui, on était inférieur à 500. En fait, c'était une obligation qui nous était fixée par la caisse d'allocation familiale d'avoir un barème pour les inférieurs à 500 qui a été levé cette année. Donc on a profité pour basculer sur du inférieur à 600. Et après, on a rééquilibré nos barèmes. Donc jusqu'au barème 5, en essayant d'avoir des paliers à peu près cohérents. Donc sur le barème numéro 2, on est entre 600 et 900, donc on voit qu'on a 300 de différence. Le barème 3, on passe de 900 à 1300, donc là on est à 400. Et après, on est de 1300 à 2000, où on passe à 700 de différence et au-delà de 2000. Donc ça, c'est la première modification, une modification plutôt au niveau des barèmes et de l'acceptation des personnes à l'intérieur. Après, au-delà des barèmes, les tarifs ont été modifiés. Donc si on commence pour les séjours, donc le séjour d'hiver 2026, donc grosso modo, c'est entre 2 et 3% d'augmentation qu'on a appliqué, puisqu'on commençait à 251 euros dans l'ancienne tarification et on terminait à 379. Donc aujourd'hui, voilà, on a une légère augmentation, sachant que c'est pareil au niveau de la participation au séjour. On se situe plutôt sur des personnes qui sont dans les barèmes 3, 4, 5 sur les participants au séjour. Pour les vacances d'été, cette fois, là où on démarrait à 184 euros, on va démarrer à 194 euros. Et on terminera donc à 291 euros pour les 9-15 ans, là où on terminait à 278. Donc ça reste des augmentations, somme toute, modérées. La même chose pour les vacances d'été, cette fois des 15-17, les ados. Alors, on est plus cher que le précédent séjour, parce que souvent, on est sur des périodes plus longues. Les 15-17 partent une dizaine de jours et des fois avec on est sur une tranche d'âge où il nécessite quand même beaucoup plus d'activités et d'activités qualitatives, donc derrière ça augmente le coût du séjour dans sa globalité et par cascade la participation de la famille. Donc on commence à 202 euros pour terminer à 370 en barème 5, là où on était entre 193 et 359 l'année passée. Le suivant, c'est le raid sportif. Alors le raid sportif, ça fait 2 années qu'on ne le fait pas. Pour autant, il pourrait être remis à l'ordre du jour l'année prochaine ou dans les années suivantes. Donc il faut quand même qu'on applique toutes les années l'augmentation des tarifs pour pas qu'on ait à le faire une fois que le séjour devrait être organisé. Donc là, c'est la même chose. On part à 130 euros jusqu'à 194. Donc voilà concernant les séjours. Maintenant, concernant l'accueil centre de loisirs. Alors là, on a travaillé aussi sur deux axes, puisqu'en fait, la facturation du centre de loisirs, elle se fait en demi-journée, donc soit le matin, soit l'après-midi, et avec les repas. Donc on a essayé de se rapprocher au maximum du prix des repas qui sont aujourd'hui pratiqués sur la cantine scolaire, pour qu'il n'y ait pas de trop grosse différence quand même entre un repas cantine scolaire et un repas pôle enfance jeunesse. Donc on a appliqué à peu près 30 centimes d'augmentation sur chacun des repas. Donc on attaque pour les plus bas QF à 2,50 €. Et on va terminer vers 5 euros au niveau des repas et 6,10 € pour les extérieurs. Concernant les demi-journées, donc c'est pareil avec la modification des coefficients dans les barèmes. On était quand même sur des demi-journées avec des montants très très bas. On était à 1,70 € la demi-journée. Hein. Aujourd'hui, faire garder une demi-journée son enfant pour 1,70 €, ça reste quand même très très abordable. Donc on a décidé de rééquilibrer ça en commençant déjà à 2 € pour la commune et pour les extérieurs en mettant 2,50 €. On accueille quand même des enfants extérieurs, mais malgré tout, il faut quand même avoir des différences. Et après, on passe 2,75 €, 3,70 €, 4,60 € et 5,60 € pour les enfants de la commune, et 3,10 €, 5,20 €, 6,50 € et 7,90 € pour les extérieurs. Donc voilà pour les tarifs du centre de loisirs accueil en journée. Grosso modo, je faisais un petit calcul quand on a fait ça. C'est des augmentations qui sont de l'ordre, sauf sur les plus bas QF, parce que du coup, on a rééquilibré. Mais c'est grosso modo 60 centimes par jour, l'augmentation. Donc c'est pas non plus énorme. Et enfin, alors la cotisation annuelle du secteur jeune, elle n'a pas bougé. La carte famille est toujours présente. Donc pour les familles qui ont plus de 3 enfants, une réduction de 10% dès le premier enfant va valoir sur les inscriptions au centre de loisirs et de 20% sur les séjours dès le premier enfant. Et enfin, l'école du sport, on a appliqué 10 € d'augmentation. Donc on passe à 140 € pour les habitants de la commune et 170 € pour les extérieurs. Ce qui reste, somme toute, là aussi, pour les habitants de la commune, le prix qui peut être d'une licence dans un club sportif, on est à peu près dans ces ordres d'idées-là, sachant qu'on propose des activités différentes avec un encadrement professionnel. Donc voilà pour les explications sur les modifications des tarifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Donc, si vous n'avez pas de questions, on va passer au vote pour la validation de ces nouveaux tarifs à la rentrée. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, les nouveaux tarifs sont validés. Je vous en remercie. Je passe la parole à Michel Buisacia pour cantine et périscolaire.
Oui, donc effectivement, on est obligé, c'est la période où on va proposer les tarifs, pour les tarifs qui sont applicables à compter du 1er septembre, c'est-à-dire à compter de la rentrée. Donc on procède à l'actualisation des tarifs de la cantine et de l'accueil périscolaire. Donc là, nous, on a eu la même réflexion. Alors au départ, on voulait un peu, on a essayé de travailler sur mettre les mêmes quotients familiaux dans les mêmes cases, mais pour nous, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a quand même beaucoup plus d'enfants qui fréquentent la cantine que le pôle enfant-jeunesse. Donc ça favorisait certaines familles et ça en défavorisait beaucoup d'autres. Donc on a décidé, parce qu'on n'a pas d'obligation à avoir les mêmes quotients, les mêmes paliers, donc on a décidé de conserver les paliers qu'on avait jusqu'avant, cette année. Et donc on a décidé par contre d'augmenter de 20 centimes chaque repas, ce qui correspond à peu près à toute une augmentation qui n'est même pas de 5%. Et c'est obligatoire parce que malheureusement, et on le verra tout à l'heure, parce qu'on vous avait trouvé une délibération sur table pour l'acceptation du marché de la cantine scolaire auprès du CDAT, le CDAT passe le prix du repas à 7,14 €. 7,14 €, non, c'est 14 ou 15, enfin bon, 7,14 € ou 15, sachant que nous, on n'a pas que... Donc déjà, on part pour le plus petit quotient à 3,80 €, pour arriver à 5 € pour les gens qui sont de la commune. Donc déjà, vous voyez, on est plus que déficitaire, rien que sur le prix du repas. Alors si on compte le prix du personnel, le prix des transports scolaires, qui, comme pour le pôle enfant-jeunesse, a explosé aussi. Bon, cette année, on a économisé un quart, mais bon, c'est pas ça qui nous fait non plus vraiment changer le budget. Et donc, on est passé de 3,80 €. Donc, l'année dernière, il y avait 20 centimes de moins sur chaque secteur. Les extérieurs payent 5 €. Nous, on n'applique pas de quotient, contrairement au pôle enfant-jeunesse, on n'applique pas de quotient aux extérieurs. Les extérieurs payent tous 5 €. Et pour le personnel communal, 6,20 €. Mais alors, nous, on n'a plus aucun personnel qui mange au CDAT. Voilà, et les pénalités qui font beaucoup parler, qui font beaucoup, sont toujours à 10 €. C'est en cas d'annulation, de manque d'annulation de repas. C'est-à-dire les enfants, tiens, aujourd'hui il y a mamie, il va aller manger chez mamie, puis on n'annule pas le repas. Sauf que nous, le repas, il a été commandé, on le paye. Donc voilà. Et aussi pour avoir oublié, par contre, à l'envers, d'inscrire l'enfant alors qu'on va le laisser à l'école et qu'il va manger à la cantine. Donc là, on met une pénalité de 10 € par repas et par enfant. Donc c'est vrai que la dame dont on parlait tout à l'heure, elle mettait systématiquement les enfants en pénalité. Donc je ne vous explique pas la note qu'elle a. Enfin, c'est bon. Je pense qu'on ne va pas tarder à la voir dans les admissions en non-valeur. Voilà. Et pour le périscolaire, on a pris la même décision. On a augmenté aussi de 20 centimes. Donc la pénalité, on ne l'a pas modifiée. On aurait pu la monter parce que 10 €, c'était le prix que nous revenait le repas il y a au moins 4 ans. Facilement 4 ou 5 ans, donc vous pensez bien qu'on est largement au-dessus maintenant. Mais bon, c'est un chiffre rond, c'est plus facile à... Voilà. Et puis, donc, pour le périscolaire, on a augmenté également de 20 centimes. C'était à 3,30 et 2,20 et on a passé à 2,40 et 3,30. Alors, ce qu'on appelle le panier repas, au départ, il y a quelques années, les enfants qui avaient des paniers repas parce qu'ils ont des plans d'alimentation particuliers ne payaient pas du tout la cantine. Or, on s'est dit, c'est quand même 2 heures de garderie périscolaire. Donc, on avait appliqué le même tarif que pour le périscolaire. Donc, là, c'est pareil. On augmente aussi de 20 centimes. Voilà. Et ça sera applicable au 1er septembre, donc au premier jour de la rentrée.
Des questions ? On actualise ? Alors, on actualise dans des proportions beaucoup moins importantes que ce qu'on va voir après du nouvelle tarification du CDAT. Bon, on ne peut pas non plus arriver et puis être trop lourd par rapport à ces tarifs. Des questions alors ? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc on valide les nouveaux tarifs de la cantine et du périscolaire à l'unanimité. Je vous en remercie. Et c'est maintenant Christine Gezins qui va nous parler des tarifs de l'École municipale des arts.
Bonsoir. Nous avons augmenté les tarifs de l'École municipale des arts de 2% arrondi à l'euro supérieur. Cela correspond à peu près à une augmentation de 1 à 2 euros par trimestre pour les élèves de Saint-Prié et pour les extérieurs de 2 à 3 euros par trimestre pour les autres, pour les communes extérieures. Voilà. Donc il y a aussi 1 euro d'augmentation pour le droit d'inscription qui est passé donc de 15 à 16 euros pour les élèves de Saint-Prié et pour les extérieurs, il s'est passé de 20 à 21 euros. Ce fameux droit d'inscription. Donc, 1 euro de plus par rapport à l'an passé aussi. Il convient aujourd'hui donc de procéder à la réactualisation des tarifs de l'École municipale des arts pour l'année scolaire 2025-2026.
Des questions par rapport à cette actualisation? Donc là, on est en train de passer tous nos postes en revue pour la rentrée de septembre. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, on valide les tarifs de l'EMA, l'École municipale des arts, initialement l'école de musique, cette création, pour la 2025-2026. Je vous en remercie. Alors, le point suivant, tu veux le présenter, non?
Si.
Là, c'était un petit peu... Alors, on le présente maintenant, dans la chronologie du Conseil, mais on aurait pu le présenter avant l'actualisation des tarifs du CDAT. Donc pour la restauration scolaire et celle du centre de loisirs, une procédure d'appel d'offres a été lancée pour la passation d'un marché de conception et de réalisation de repas et la mise à disposition d'un site situé sur Saint-Prié-en-Jarret ou à proximité immédiate. Ça, c'est la définition du marché public. Ce marché réservé, conformément à l'article 36.1 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, doit être conclu pour 3 années, donc on arrivait à la fin du précédent marché, donc du 1er septembre 2025 au 31 août 2028, sur une base de 40 000 repas maximum par an. Lors de sa réunion du 19 juin 2025, au vu de l'analyse technique et financière de l'offre, savoir qu'on n'a eu qu'un seul soumissionnaire, à savoir 7,15 euros hors taxe le repas, la commission d'appel d'offres a décidé donc d'attribuer le marché au centre départemental d'aide par le travail, 73 rue Franklin à Saint-Étienne. Il vous est donc demandé de m'autoriser à signer les pièces relatives au marché, à intervenir avec cette entreprise. Oui. Donc c'est bien 7,15 euros. Hein, Donc voilà, c'est l'actualisation du marché. Bon oui, il n'y a qu'un soumissionnaire parce que c'est tellement spécifique la définition du marché tel que la loi le prévoit. En plus, c'est eux qui sont effectivement propriétaires du site du restaurant scolaire. Donc, il n'y a pas eu d'autres candidatures. Alors, on aurait pu discuter sur cette notion de 7,15 euros. On verra avec eux, mais de toute façon, ils nous le proposent. C'est un marché, on l'accepte ou on le refuse. Et comme on ne peut pas le refuser, bon, on l'a accepté. Et c'est révisable et actualisable tous les ans. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, nous validons ce marché avec le CDAT. Je vous en remercie. Le point suivant. Rémi?
Oui, Rémi Mounier. Donc, on revient sur les subventions aux associations, puisque, comme on dit souvent, nul n'est infaillible. Et dans la longue liste qu'on a passée derrière au dernier conseil municipal, on avait oublié une subvention auprès d'une association qui est l'association Sel Jimbad, qui est revenue nous voir, étant surprise de ne pas avoir eu de subvention malgré la demande. Mais le dossier s'était glissé au milieu du classeur. Et comme c'est une association qui a assez peu l'habitude de demander des subventions, on est complètement passé au travers. On s'en est excusé auprès d'eux. Et du coup, voilà, je vous propose de verser une subvention de 900 euros à l'association Jimbad. C'est pour de l'achat de matériel. La demande initiale était un peu plus élevée. On a expliqué aussi à l'association, quand c'est du matériel, il est quand même plus opportun de se tourner vers les députés ou les conseillers départementaux qui ont des budgets alloués quand l'objet est ciblé, plutôt que nous, on puisse le faire. Donc la demande initiale était de 1 500 €, on leur accorde 900 € pour l'achat du matériel.
Des questions ? Donc c'est une omission de notre part. C'est vrai que dans notre liste, on n'a pas tilté parce que les autres années, il n'y avait pas d'antériorité, donc on les avait pas mis sur le tableau des subventions qu'on a examinées au dernier conseil. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? À l'unanimité, nous accordons cette subvention à Gimbad. Continue, Rémi.
Oui. Et on a une autre subvention. Alors, celle-ci, on ne l'a pas oubliée. Celle-ci, elle arrive toujours un peu plus tard, puisqu'elle concerne l'association Saint-Priest-Escalade, et c'est la facturation faite par le lycée Simone Veil pour la mise à disposition du gymnase sur l'année à venir. Donc, comme les années précédentes, l'association nous demande de verser 2 072 € à l'association pour la redevance d'occupation du gymnase Nord, ce qui corrobore exactement au tarif qui est pratiqué par la région à travers le lycée auprès de notre association.
Donc ça fait partie hein, des actualisations de subventions qu'on fait chaque année. On vous l'avait dit, hein, quand on vous a présenté le tableau des subventions, en disant pour telle et telle association, il y aura forcément une demande complémentaire. Donc voilà, on valide donc, je vous propose de valider cette subvention de 1 072 € qui correspond à la mise à disposition du gymnase par la région. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc on remboursera bien Saint-Priest-Escalade de cette tarification. Le point suivant, c'est un point de comptabilité, c'est sur les autorisations de programmes pluriannuels. Et donc l'extension et la réhabilitation du groupe scolaire Jules Ferry, parce que ça s'appelait encore groupe scolaire Jules Ferry à l'époque, et donc modification de l'autorisation de programme initial et répartition des crédits de paiement. Par délibération 23-03-06 du 27 mars 2023, le Conseil municipal a adopté le principe de recours au vote d'une autorisation de programme et de crédit de paiement pour la gestion pluriannuelle des investissements liés à l'extension et la réhabilitation du groupe scolaire Jules Ferry à l'époque comme suit. Nous avions donc 4 834 000 d'autorisations de programme. En 2023, 2070, 372,37 et en 2024, 2000. 763 968,63 €. Ça, c'est les crédits de paiement. Donc, une autorisation initiale, des crédits de paiement, ce qui nous permet d'ici sur plusieurs années un investissement. Par délibération 24-03-06 du 25 mars 2024, le Conseil municipal a approuvé le bilan annuel 2023 de l'autorisation de programme, a reporté les crédits de paiement non utilisés en 2023 pour un montant de 506 567,76 € sur l'exercice 2024, et réviser donc en conséquence le montant total de l'autorisation de programme en le portant à 5 291 167,72 €. Par délibération 25-03-06 du 24 mars 2025, le Conseil municipal a approuvé le bilan annuel 2024 de l'autorisation de programme, a reporté les crédits de paiement non utilisés en 2024 pour un montant de 226 106,14 € sur l'exercice 2025, sans révision du montant total de l'autorisation de programme comme suit. Montant de l'autorisation de programme, 4 966 280,21 €. Crédit de paiement 2023, 1 563 804,61 €. Crédit de paiement réalisé en 2024, 3 176 374,46 €. Et crédit de paiement donc à réaliser sur 2025, 226 102,14 €. Vu les articles L2311-3 et R2311-9 du Code général des collectivités territoriales portant définition des autorisations de programme et crédits de paiement, vu l'article L2163-8 du Code des juridictions financières portant sur les modalités de liquidation et de mandatement avant le vote du budget, vu le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement, vu l'instruction M57, considérant que l'avancement des travaux nécessite l'ajustement des crédits ouverts par l'autorisation de programme initiale, la révision du montant d'autorisation de programme en portant les montants total de l'autorisation de programme à 5 058 280,21 €. Donc, en conclusion, nous avons un montant d'autorisation de programme 5 058 280 €, 5 058 280 €21. Réalise en 2023 1 563 804 €61. En 2024, 3 176 374 €46. Et en 2025, 318 102 €14, dont 226 102 €14, correspondant au reste à réaliser constaté au compte administratif 2024 et 92 000 en crédit de paiement 2025. Voilà, c'est l'ajustement définitif. Voilà, et qu'on a intégré, bien sûr, dans la décision modificative qu'on vous a présentée tout à l'heure. C'est la fin de ce financement sur plusieurs années de la création et de l'extension du groupe Jules Ferry, de la création de l'école Jules Verne. Des questions par rapport à ça? Vous avez compris, on a fait des estimations en 2023. Ce qu'on n'a pas consommé, on le reporte en 2024 en actualisant. Et ce qu'on n'a pas consommé, on le reporte en 2025 en actualisant pour définir le solde à payer qu'on a intégré dans le budget modificatif. Des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, nous validons cette décision à l'unanimité et je vous en remercie. Alors, le point suivant. C'est une décision que nous avons maintenant chaque année. C'est l'actualisation des emplois permanents dans la perspective des promotions demandées. Et vous savez que dans ce cas-là, il faut qu'on crée préalablement les postes. Conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, susvisés les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services pour permettre de renforcer le service finance RH et entamer une procédure de recrutement. Il convient de créer un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe à temps complet et un poste d'adjoint administratif principal de première classe à temps complet. Un agent spécialisé principal de première classe des écoles maternelles fait valoir ses droits à la retraite. Pour permettre son remplacement par mutation interne, il convient de créer un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps complet et d'ouvrir un poste d'adjoint technique et un poste d'adjoint technique principal de première classe, tous deux à temps non complet, à raison de 80%. Pour assurer le remplacement des agents à temps partiel en crèche et au jardin d'enfants, un poste d'adjoint technique doit être ouvert à temps non complet à raison de 80%. Et enfin, deux assistants d'enseignement artistique principaux de première classe titulaires à temps complet ont fait valoir leur droit à leur retraite. Pour pallier leur remplacement et la réorganisation du service de l'école des arts, il convient d'ouvrir à compter du 1er septembre 2025 des postes sur chacun des grades du cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique comme suit. Je vous passe la longueur de la liste. Et donc, je vous propose de créer les postes précités en application des articles L332-1 et L332-14 du Code général de la fonction publique à compter du 1er septembre 2025 et de porter les emplois permanents ouverts de la commune comme annexés. Donc, vous avez un tableau. Nous vous proposons 192 postes ouverts pour 124 postes pourvus. Donc, je vous rappelle la logique. On crée les postes par anticipation dans le cadre soit du recrutement, soit des déroulements de carrière. Quand ces nominations ou ces promotions auront été intégrées, on reviendra vers vous pour supprimer tous les anciens postes ou les postes qu'on avait créés qui n'ont pas pu être pourvus. Des questions par rapport à ça? Oui, c'est compliqué. Donc, on va valider peut-être cette proposition d'actualisation du tableau des effectifs. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, on va le valider à l'unanimité et je vous en remercie. Alors, le point suivant est très complexe. J'aurais dû passer la parole à Frédéric Billon, mais il ne peut pas parler. Ça, c'est la clim. Bon, alors je vais essayer d'être clair. Ce matin, on a eu un comité social et technique, où on l'a présenté, en représentant du personnel. Bon, ils nous ont dit comme conclusion, vous nous ferez un tableau récapitulatif. Alors, il s'agit donc du maintien du régime indemnitaire en cas d'absence maladie. L'article 189 de la loi 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a réduit l'indemnité des fonctionnaires en congé de maladie ordinaire, CMO, durant les trois premiers mois de congé. Donc congé maladie. Désormais, l'article L822-3 du Code général de la fonction publique prévoit que le fonctionnaire, qu'il soit CNR, ACL ou IRCOTEC, placé en congé de maladie ordinaire, bénéficiera pendant les trois premiers mois d'un maintien à 90% du traitement, contre 100% jusqu'à présent, puis pendant les 9 mois suivants d'un maintien à 50% du traitement. Ça, c'est inchangé. Cette mesure est transposée par décret aux agents contractuels, donc qui ne sont pas fonctionnaires. En effet, le décret 2025-197 du 27 février 2025, relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé maladie ordinaire ou en congé maladie, modifie l'article 7 du décret 88-145 pour appliquer les mêmes dispositions à la rémunération du congé de maladie ordinaire selon leur ancienneté. Donc, après 4 mois de service, 1 mois à 90% de son traitement et 1 mois à demi-traitement. Après 2 ans de service, 2 mois à 90% de son traitement et 2 mois à demi-traitement. Après 3 ans de service, 3 mois à 90% de son traitement et 3 mois à demi-traitement. Cette mesure impacte également le régime indemnitaire. Là, on était sur le salaire. Maintenant, on va parler des indemnités. En application du principe de parité, les conditions de sa modulation pendant un congé de maladie définies par délibération ne doivent pas être plus favorables que celles applicables aux fonctionnaires de l'État. Or, pour ces derniers, il est expressément prévu qu'en cas de congé maladie ordinaire, le bénéfice des primes et indemnités est maintenu dans les mêmes proportions que leur traitement. Ça veut dire que pour les fonctionnaires, on procédait aux mêmes abattements sur les primes que sur le salaire de base. Ainsi, conformément aux dispositions précitées et aux différentes délibérations déjà adoptées, les modalités de maintien du régime indemnitaire en cas d'absence pour raison de santé sont désormais les suivantes. Ah ben oui, c'est pour ça que tu es arrivé en retard, CST. Donc le congé maladie ordinaire à plein traitement, maintien du régime indemnitaire dans les mêmes proportions que le traitement, à savoir suppression du régime indemnitaire le premier jour, le jour de carence, et déduction de 10% à partir du deuxième jour. Congé maladie ordinaire à demi-traitement, suspension du régime indemnitaire. Congé longue maladie, maladie grave ou de longue durée, suspension du régime indemnitaire. En cas de requalification rétroactive d'un congé antérieurement accordé en congé longue maladie, maladie grave ou congé de longue durée, l'agent conserve le bénéfice du régime indemnitaire mensuel versé durant ce congé avant la requalification. Congé pour invalidité temporaire imputable au service, donc accident de travail ou maladie professionnelle, maintien du régime indemnitaire dans les mêmes proportions que le traitement durant toute la durée du congé. Il n'y a pas d'abattement. En cas de requalification rétroactive d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service en congé de maladie ordinaire, l'application de la règle de proratisation sera appliquée rétroactivement. Donc là, par contre, on reviendra sur le bénéfice qu'ils avaient antérieurement. Temps partiel thérapeutique, versement du régime indemnitaire au prorata de la quotité du temps partiel pour raison thérapeutique. Congé lié aux responsabilités parentales, maternité, naissance, adoption, paternité, maintien du régime indemnitaire dans les mêmes proportions que le traitement durant toute la durée du congé. Ces nouvelles dispositions ont été présentées au comité social territorial du 23 juin, donc ce matin. Donc on s'adapte à l'évolution de la législation en retenant un principe, égalité de traitement pour les fonctionnaires et les contractuels. Des questions ? Alors, c'est complexe. On a un tableau qui reprend les différentes situations avec des simulations, mais c'est complexe. On a aussi, honnêtement, retenu ce dispositif qui a le mérite de simplifier, parce que si on avait voulu garder d'autres dispositions, ça devenait totalement ingérable au niveau des mécanismes de paye. Ingérable. Donc, tout le monde sur le même pied d'égalité. Alors, oui, effectivement, il y a des pertes de salaire, mais bon, quand on ne travaille pas, c'est un logique, peut-être aussi qu'on n'ait pas le même salaire que ceux qui travaillent. Alors, quand on dit oui, mais quand on est malade, c'est pas de notre faute. Oui, d'accord. Mais le travail, il est fait par ceux qui sont pas malades. Bon, c'est un peu simpliste, mais on analyse, et c'est aussi une réalité. Des questions par rapport à ça ? Je crois avoir tout dit. Frédéric, ça doit être à peu près complet. Vous n'hésitez pas à intervenir, surtout que vous ne pouvez pas, donc ça m'arrange. Voilà, bah écoutez, on va mettre au vote. Hein. On l'avait vu, ça. Non oui. Donc voilà, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc voilà, bah, je vous remercie d'avoir validé ce nouveau dispositif. On aura à nouveau un comité social territorial, je pense, en septembre, pour examiner un petit peu le matériellement ces dispositifs. Et on parlera à ce moment-là de la prise en charge de l'employeur, de la complémentaire santé obligatoire. Là aussi, c'est très complexe. Je vous la fais courte. Il y a des contrats labellisés par l'État et puis il y a les contrats choisis par nos collaborateurs et collaboratrices. On peut participer si le contrat est labellisé. Donc soit on leur impose un contrat d'État qui est labellisé. Voilà, on dit demain, vous prendrez ce contrat et on participera à hauteur de. Soit on participe financièrement sur leur propre contrat à condition qu'il soit labellisé. Or, le constat qu'on avait fait pour le contrat prévoyance qui a été mis en place l'an dernier, c'est que ces contrats labellisés libres, on va dire, avaient augmenté. Et ce qui fait que, malgré notre participation, le reste à charge de l'agent augmentait. Donc, il n'avait aucun intérêt à opter pour ce contrat labellisé. Voilà, c'est... Alors, la démarche, je dirais, politique, on la comprend. Elle s'inscrit dans quelque chose d'assez cohérent et social. Par contre, compte tenu de la spécificité et au sein même du même organisme, même du même contrat, certains sont labellisés par l'État et d'autres ne le sont pas. Donc, c'est très compliqué. Et beaucoup d'agents, en définitive, préfèrent garder leur contrat et de ne pas bénéficier de la prise en charge de l'employeur. Je vous remercie. Donc, maintenant, on va passer à la modification du règlement intérieur de l'école municipale des arts. C'est Christine Gezins qui va nous le présenter.
Alors, l'an passé, nous avions déjà modifié le règlement intérieur de l'école municipale des arts pour les règlements des cotisations qui pouvaient se faire à l'époque, qui peuvent se faire à partir de maintenant par paiement en ligne. Donc, ce soir, nous allons modifier l'article 3, grand 3, 2. Je précise. C'est en fait, c'est au moment des inscriptions. Donc, auparavant, nous avions une phrase, une demande de dérogation d'inscription pour les élèves extérieurs à la commune. Cette phrase, elle a été supprimée, elle n'existe plus. Il y avait aussi un document à signer. Donc, maintenant, il n'y a plus de document à signer puisque toutes les inscriptions se font par Internet. Et là, il y avait aussi une phrase sur la remise des dossiers. Donc, pareil, tout est fait par Internet. Donc, il n'y a plus de remise de dossiers. Donc, nous avons marqué donc, une demande au responsable légal de l'enfant autorisant le droit à l'image que l'EMA pourrait utiliser dans le cadre de sa promotion et de ses activités d'animation. Donc, effectivement, Viviane, de temps en temps, elle prend souvent les enfants en photo, mais on a besoin de l'autorisation parentale pour les mettre sur le bulletin municipal, par exemple. Et puis, le paiement d'un droit d'inscription annuel à effectuer lors de l'inscription. C'est ce qui a augmenté d'un euro, c'est 16 euros, ce droit d'inscription. Là. Voilà, c'est juste ces deux phrases-là qui ont été modifiées. Donc, pour maintenir et garantir un enseignement de qualité, l'École municipale des arts a élaboré une série de documents relatifs à son bon fonctionnement auprès des diverses institutions et des usagers. Ces documents sont le projet d'établissement, le règlement intérieur et le règlement des études. Ces derniers sont également destinés à compléter le dispositif de l'EMA dans le cadre du réseau départemental des enseignements artistiques. Il convient aujourd'hui donc de modifier le règlement intérieur de l'École municipale des arts. Voilà, je vous demande donc d'approuver ce document, ce petit changement de phrase.
Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, on valide cette modification. À travers ce qu'on vous a représenté, il y a quand même un changement majeur. On l'avait déjà évoqué, y compris le jeudi dernier, c'est qu'à partir de la rentrée, on a dématérialisé toutes les formalités d'inscription. Que ce soit la cantine, le périscolaire, le pôle enfant jeunesse ou l'école municipale des arts. C'était une attente très forte des parents. Ça a été très technique, très difficile, franchement très difficile à basculer les fichiers. Je vous garantis que nos personnels à l'accueil y ont passé un certain nombre de fins de journée, voire de début de soirée. Il y aura encore forcément des incompréhensions ou des critiques ou des couacs à la rentrée. Mais franchement, par rapport au fait de déposer un dossier à la mairie, un dossier à l'école municipale des arts, un dossier pour l'enfant jeunesse, c'est une simplification qui est remarquable. Pour la famille et pour nous, ça nous donne un outil aujourd'hui totalement complet. Alors, on aura forcément des critiques. On aura des gens qui nous disent « Je suis en vacances, donc je ne pouvais pas m'inscrire mes enfants. » Ben oui, mais comme c'est 24-24, vous pourriez le faire de votre site de vacances. Un dossier, on ne peut pas le déposer si on est au bout du monde. Sur Internet, on peut le faire. Voilà, parce qu'on entend aussi ce genre de choses. Hein. Donc voilà, une fois de plus, là aussi, on est allé dans le sens qui avait été souhaité et par les parents, et aussi par les enseignants, quelque part, parce que là aussi, on aura une complémentarité par rapport à la situation de nos enfants, enfin des élèves dans nos écoles. Voilà, je crois qu'on peut dire que c'est quand même aussi un travail qui a été lourd, qui a un coût, et avec un investissement de l'ensemble de nos collaborateurs, que ce soit au Pôle Enfant Jeunesse, à l'École Municipale des Arts ou à la mairie, qui est remarquable et je tiens à les en remercier. Voilà, vous avez eu une dernière délibération sur table. Elle est toute chaude. Elle était, quoi, 12h15, 12h30. C'est la Xème sur cette thématique. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Parce que normalement, aujourd'hui, j'aurais dû être à 11h chez la notaire de Mme Arnaud pour signer la vente de l'atelier. Ça n'a pas été fait. Bon, donc on a rencontré Mme Arnaud et je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Donc, on revient une fois de plus sur les modalités de cession de la salle de l'atelier. Je vous rappelle que nous vendons, nous, directement la salle de l'atelier à Mme Arnaud et que Epora vend à Mme Arnaud l'ensemble du foncier précédemment acquis et le coût de la démolition. Par délibération 24-11-03 du 4 novembre 2024, le conseil municipal a approuvé la cession des parcelles AH478, AH479 à la société A2S IMO au prix transitoire de 190 000 euros et décidé que le prix de vente définitif ne serait défini que lorsque le coût réel de la démolition et les éventuelles dépenses annexes induites seraient connues. Par délibération 25-02-05 du 18 février 2025, le conseil municipal a validé le devis de démolition établi par la société Malia, mais lors de ses travaux, il s'est avéré que le mur séparant l'ex-salle de l'atelier et les locaux des services techniques devait être démoli et reconstruit. C'est le mur mitoyen, en fait, ce n'est pas un mur mitoyen, mais ce sont deux murs accolés. Conformément à la délibération 24-11-03, cette dépense annexe d'un montant de 11 655 euros doit elle aussi être déduite du prix de vente de 190 000 euros et du coût de la démolition de 51 345 euros hors taxes, déjà validé par la délibération 25-02-05. En conséquence, le prix de vente des parcelles AH477 et AH479 est donc définitivement arrêté à la somme de 127 000 euros. Il vous est donc demandé d'approuver la cession des parcelles AH477 et 479 d'une contenance respective de 152 mètres carrés et 208 mètres carrés à la société A2S IMO ou toute autre entité juridique qui se substituerait à elle ou dans laquelle elle serait totalement ou partiellement actionnaire au prix de 127 000 euros payables à terme aux conditions que le représentant de la commune jugera convenable en la matière. Les frais d'acte sont pris en charge par l'acquéreur. Cette délibération annule et remplace la délibération 25-02-05 du 18 février 2025. Concrètement, ce mur, une fois démoli, donc c'était dans le coût de la démolition, où en fait, on va arriver avoir un espace vide là-bas sous le préau et également la salle de peinture. Parce que le mur, quand il va tomber y compris chez nous. Donc c'est notre mur aussi qui va disparaître. Donc on a rencontré Mme Arnaud. Elle a un coût supplémentaire parce que derrière il faut reconstruire un mur. On ne va pas rester ouvert à tout vent là sur le côté place. Donc ça nous a semblé logique avec Mme Arnaud de couper la poire en deux puisque pour une partie, c'est chez elle, c'est le mur d'atelier. Et pour une partie, c'est chez nous, c'est notre mur à nous. Le mur sera rebâti, recrépi, etc. Et donc, on a décidé d'une quote-part mal taillée. Alors, c'est un arrondi, 127 000. On était à 127 000 et quelques poussières. J'ai dit, allez, on tombe d'accord sur la somme globale et définitive de 127 000 pour que ça remonte en urgence chez le notaire et qu'on puisse signer dans les jours qui viennent. Voilà. Donc, simplement, l'actualisation, elle était prévue dans les libérations précédentes, hein, on avait dit on achète à 190 000 moins la démolition, actualiser des problématiques auxquelles on est confronté. Donc voilà. Des questions par rapport à ça? C'est un dossier qu'on achève dans de bonnes conditions, à mon avis. Donc après, elle va bien sûr acheter à Epora la partie du foncier qui avait été acquis et démoli par Epora. Et après, Epora se tourne vers nous pour qu'on paye le solde sous déduction, et je vous l'avais déjà expliqué, d'une participation d'Epora sur ce déficit. Et c'est là peut-être que par rapport aux provisions qu'on a prudemment comptabilisées depuis 2020, on aura peut-être, là encore, une petite marge de manœuvre. Voilà. D'autres questions ? Donc je vais vous proposer de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie de valider à l'unanimité cette décision. Voilà, on en a fini avec le conseil municipal. Il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances, bien vous reposer, bien en profiter, et puis on se retrouve à la rentrée. Je vous remercie. Merci pour le futur article, c'est-à-dire qu'il passera celui-là.